au Samarcande. Avec, par et pour les jeunes. Une heure de temps de parole.
Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Saint-Marcande, le projet radiophonique de Saint-Marcande. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être à l'antenne. Nous sommes avec un groupe de jeunes de 18 à 30 ans et je suis avec ma collègue Joséphine. C'est Céline en animation et donc Joséphine en co-animation. Nous allons commencer par un petit tour de table. Donc à ma gauche, j'ai...
Dina, enchantée.
Salut Dina.
Salut.
Riley.
Salut Riley.
Salut.
Mohamed.
Salut Mohamed. Salut.
Bonjour Ayoub.
Salut Ayoub. Alors, donc aujourd'hui on est réunis pour une petite émission collective. Nous, au micro, nous avons aussi...
Amine.
Dounia.
Vincent.
Souleyman.
Et Joséphine qui est...
Et Joséphine au micro public.
Qui fait l'animation avec moi. Donc du coup, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Ça fait 6 mois, donc on est très heureux de se retrouver tous ensemble. L'idée, en fait, c'est de faire une émission sur le passage à la majorité et les transitions que ça implique. Donc est-ce que vous pourriez m'expliquer tout d'abord en quoi consiste le projet Nice to Meet You?
Ah, le projet Nice to Meet You, c'est... une formation déjà entre 18 et 30 ans, où c'est sur une période de 6 semaines, du coup un mois et demi, où ça consiste 3 semaines collectives au début, où on est avec un groupe de jeunes qui ont notre âge, enfin un âge similaire et tout ça. Et ça a pour but de reprendre confiance en nous, de plein de choses en fait, de reprendre confiance en nous, d'être avec de nouvelles personnes, de voir qu'il y a des gens qui sont, on va dire, dans le même bateau que nous. Et après 3 semaines du coup individuelles mais en stage, où là directement on est sur le terrain. Et on teste des projets professionnels et tout ça. C'est à peu près ça.
Ok. Et comment vous avez connu ces projets?
Personnellement, moi j'ai pris connaissance du projet grâce à une amie à moi qui est psychologue et qui m'a totalement reconnue dans le projet. Et du coup, voilà.
Pour les autres, ça s'est passé aussi comme ça ou...
Non, moi c'est grâce à mon assistante sociale. Elle m'a guidé vers là et voilà.
Et même chose que lui, assistante sociale, oui.
Et donc tu disais qu'il y avait des activités à la fois collectives et individuelles. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer, comme ça les auditeurs peuvent vraiment comprendre comment ça se passe pour vous? Quels sont le genre d'activités, plus en détail?
Ensemble, on fait des activités qui à la fond, qui ont un sens. C'est-à-dire qu'on fait des activités, on fait plein de choses. On fait des rencontres avec des animateurs, des gens qui interviennent, qui nous expliquent leur parcours, tout ça. Et à la fin, on voit qu'il y a un sens avec nos projets personnels et ça donne du sens, en fait.
Ok. Alors, est-ce que... Donc, on disait que le sujet... Enfin, suite à la première rencontre, donc le sujet de l'émission, c'était vraiment le passage à la fois à la majorité administrative. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans un premier temps, qu'est-ce que ça vous évoque, en fait, la majorité?
Je sais pas, moi, tout de suite, dès que j'ai eu 18 ans, je me sentais directement, on va dire, plus grand. J'étais plus réellement sous les commandes de papa et maman, on va dire, même si, évidemment, je vis toujours chez eux. Mais quand on passe 18 ans, on passe un cap, on va dire. On n'est plus réellement sous la responsabilité de notre mère. Si maintenant on a des problèmes, que ce soit avec la police ou autre, ça repose sur nous. Et voilà. Après, qui dit 18 ans, dit du coup, là, on peut passer le permis, plein de choses, plein de portes qui s'ouvrent. Voilà, moi, je l'ai senti comme ça, à peu près.
Je vois que dans le public...
Je pense personnellement qu'au-delà de pouvoir faire ses choix soi-même, il y a beaucoup de responsabilités qui sont derrière. Et je trouve qu'on ne nous prépare pas assez, en fait, à cette réalité. On ne nous prépare pas à trouver de l'emploi, à trouver une mutuelle, à partir de quand ça se paye, une mutuelle, les impôts... Enfin voilà, je pense qu'on ne nous prépare vraiment pas assez. Et moi, personnellement, à mes 18 ans, je travaillais, etc. Et j'étais vraiment perdue. Et je ne savais pas vers quoi me retourner, vers qui me retourner pour pouvoir faire ces démarches.
Est-ce qu'il y en a d'autres dans le groupe qui ont eu ces mêmes difficultés?
Oui, je suis d'accord avec l'avis de Dounia.
Et Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou bien tu...
Oui, c'est pareil, c'est la même chose. Quand tu arrives à ta majorité, pour moi, c'est plus les problèmes, les responsabilités. Tu dois gérer tout seul tes papiers. Tu dois t'inscrire dans des trucs, tout ça. Même par rapport à la justice, à partir de la majorité, ça craint un petit peu. Et voilà, c'est plus facile la vie quand on est mineur. Et voilà.
Ok. Qu'est-ce qui pourrait nous préparer en fait à cette majorité quand vous nous dites oui que vous êtes un peu laissé tout seul pour les démarches administratives
au même titre qu'on fait intervenir les PMS, les plannings familiales, etc. Je pense que ce serait nous consacrer peut-être avant. Enfin, je sais pas comment on pourrait organiser ça, mais vraiment l'introduire en fait dans l'école parce que on va être amené à devoir le faire en fait. Vraiment nous apporter des trucs utiles et je pense que l'école étant donné qu'on est forcé d'y aller 5 fois semaine avec quand même pas mal d'horaires trouver un petit temps pour un peu nous montrer la réalité des choses et pas qu'on voit le truc comme j'ai un diplôme, je vais postuler, je vais trouver du boulot. Non, ça se passe pas comme ça, pas du tout même. Donc nous préparer aussi voilà, je pense que tu devrais mettre ça à l'école.
Ok, mais on va revenir de toute façon sur vos parcours scolaires et la manière dont vous l'avez vécu. On va d'abord commencer par une petite première pause musicale. Et donc je pense que Mohamed avait une chanson à nous proposer. Est-ce que tu peux la lancer ?
C'est Corn de Douce Mokey. C'est un chanteur anglais de Londres. Et voilà.
Ok, c'est parti, on va l'écouter.
Call from the hunting, I met that bang. Rising 10, I hate when I'm closing the hunting jams. So I keep a ram young man. Dot dot king trying to lift up man. The kid like Jackie Chan, but be like Cardi, I don't want Nani. I just wanna lock this rap in a deal with both like Panda Pope. With work in the Paris, press them a door and whip the snow. Man try messing get violent, they go and riding. I was with bro telling residents go to the pagan boys, stop hiding. I was locked up and the gang was riding. I came fresh home and I upped that mileage. Ding dong swerving up, lot lurking. Bros amped up, I'm in the back with Salem. Yeah, my dog, that's Studio and Brian. More like Ed, Eddie. I got M's on my mind, like million. Nothing but intention to put him on top. That's one eye closed like 30. A man got left ugly like Betty. I still pop them doors, confetti. They see me and turn soft like jelly. I'm running around like Tom and Jerry. We put pagan boys in blue. Imperial on bucks a copper. And they still fuck the boys in blue. The feds won't golf my deal like a tosser. Call from the hunting, I met that bang. Rising 10. I hate when I'm close in the hunting jams. So I keep a Remy on man. Dot team trying to lift up man. The kid back Jackie Chan, but be like Cardi. I don't want Nani. I just wanna lock this rap. Call from the hunting, I met that bang. Rising 10. I hate when I'm close in the hunting jams. So I keep a Remy on man. Dot team trying to lift.
Et nous revoici sur les ondes de Saint-Marcande. Donc lors de notre première rencontre, vous nous avez pas mal parlé du système scolaire, en fait, de votre trajectoire à l'école. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous l'avez vécu ?
Le parcours scolaire, du coup ?
Oui.
Personnellement, ça a été super difficile, en vrai. Je l'ai trouvé très très dur, très très... avec beaucoup de... Comment dire ? Allez, ça devait être fait d'une manière et pas d'une autre, vous voyez.
Très cadré.
Très carré, plutôt, vous voyez.
Oui.
Voilà, moi, je l'ai trouvé vraiment très difficile, en vrai, de rentrer dans les cases, on va dire, imposées par l'école. Je vais y arriver.
Moi, ça a été difficile aussi, mais de la première à la sixième primaire, pour moi, ça allait. C'est vraiment quand je suis rentré dans la cour des grands, quand en première secondaire, là, c'était chaud, quoi. Je me sentais pas bien, je me sentais pas à l'aise quoi quand j'étudiais. C'était vraiment difficile pour moi.
Moi aussi c'était pareil. De la première à la sixième primaire c'était bien on va dire. Et dès que je suis rentré en première secondaire, deuxième secondaire, c'est là où ça commence à être tendu. Soit avec les cours généraux ou tout ça, c'est là où ça a commencé à être compliqué pour moi.
Et vous attribuez ça à quoi que le passage du primaire au secondaire a été plus difficile pour vous ? L'école était trop stricte, c'était moins encadré ? Non. Est-ce que c'était l'adolescence pour
vous ? C'est pas ça en fait, c'est juste en secondaire t'as plusieurs cours en fait. Et t'as pas l'habitude de ça, tu passes de 6e En première, tu as des cours en plus déjà et plus d'heures. Et voilà, et tu as plusieurs profs. Moi, quand j'étais en primaire, j'avais un seul prof pour toutes les matières. Là, tu changes, tu bouges. Tu as 2 heures de maths, 2 heures de français, 2 heures de néerlandais, 2 heures d'anglais, de géo, histoire. Vraiment, c'était difficile à suivre. Et en classe, j'arrivais pas, quoi. Après 15 minutes, j'avais envie de dormir. Et voilà.
Tu parlais, Dounia, des catégorisations, enfin, le fait de te sentir mis dans des cases. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour toi, ça a joué à quel niveau, ce sentiment d'être mis en boîte, en case ?
Du coup, moi, à l'école, ça a été du coup, très compliqué. Et en fait, j'ai perdu totalement confiance en moi, en fait. J'avais pas les points, j'avais du mal à comprendre la matière, là où d'autres avaient des facilités énormes. Donc ouais, j'ai perdu beaucoup confiance en moi, en vrai.
Pour ma part, c'est... Je rejoins totalement Mohamed sur le fait que c'est vrai qu'on passe de plus petites structures quand on est à l'école primaire, puis on nous jette un peu avec plein de monde, avec plein de profs, avec plein de cours. De nouveau, on ne nous prépare pas tant que ça. Et voilà, moi, pour ma part, au niveau des cases, ça a été plus compliqué parce que d'entrée de jeu, je savais plus ou moins ce que je voulais faire. Mais le problème, c'est qu'on nous a beaucoup dénigré les enseignements de qualification. En disant que c'est pour les fainéants, pour les nuls, etc. Donc on se force un peu en fait à étudier pour avoir cette être un bon élève en fait, mais juste pour rentrer dans les cases. C'est cet enseignement très carré. Si c'est pas carré, t'es voué à faire boulanger ou boucher de façon vraiment très dénigrante. Et pour ma part, ça, c'est ça qui a été dur. Et puis les adolescents entre eux sont très méchants. Donc ça joue aussi beaucoup sur la confiance en soi. Mmh. Voilà, il faut avoir les derniers habits à la mode, il faut avoir les dernières paires à la mode, il faut savoir faire du shopping toutes les semaines. Mais voilà, ça, si tu ne sais pas suivre ça, on te met sur le côté. À l'école, on te met sur le côté. C'est pas facile à une période où on se cherche, en fait.
Ouais. Ouais. Donc il y a vraiment une pression sociale, que ce soit de la part des autres élèves, mais de l'école elle-même. Est-ce que vous avez choisi, vous, d'aller dans certaines filières ou options ? Parce que j'entendais que tu disais les techniques... C'est vrai que souvent, certains jeunes me disent « Moi, j'ai pas eu le choix, on m'a mis en technique, en professionnel, mais c'était pas ça que je voulais faire. » Ou d'autres jeunes me disent « Mais moi, je voulais aller en technique et c'était mal vu. » Est-ce que ça a été aussi ce genre d'expérience que vous avez eue ?
Non, moi, perso, j'étais en général. Je suis passé de la 6e en première, secondaire en général. J'ai fait ma première, j'ai fait la 2e, c'était vraiment compliqué, j'ai raté. J'ai refait ma 2e. J'ai plus ou moins réussi, j'ai raté en une matière, du coup, on m'a renvoyé en technique. Et pour moi, je voulais pas, vous voyez, mais je pouvais pas revenir en général, on m'a dit, tu peux plus, quoi. Et moi, je voulais terminer en général pour m'améliorer, mais ils m'ont dit, non, tu vas en technique ou en professionnel. Et j'étais obligé d'aller en technique, et voilà. C'était encore plus difficile, parce que t'étais obligé de faire un truc que t'aimais pas, quoi.
Pour ma part aussi, j'ai commencé l'enseignement général. Je voulais absolument terminer en général parce que c'était mieux vu, qu'il y avait plus d'opportunités à la clé, etc. J'ai raté 2 fois dans l'enseignement général. J'étais plus âgée, j'étais plus mature que les autres élèves de mon âge. Et moi, on me l'a un peu imposé dans le sens où c'était mieux pour moi au final, juste d'aller dans l'enseignement de qualification. J'ai pas voulu, j'ai quand même accepté en me disant que c'était plus ciblé sur mes cours à moi, parce que si j'ai raté aussi, c'était histoire et une autre matière qui pesait pas tellement dans la balance, et je trouvais ça un peu injuste de se dire que c'est des matières qui vont peut-être même pas me servir dans ce que je veux faire dans l'avenir, et qu'on me fasse rater pour ça, voilà. J'étais un peu dégoûtée, donc j'ai été dans l'enseignement de qualification, et en fait il s'avère que tout le monde nous dénigre, en fait, que ce soit les profs, que ce soit... Enfin, voilà, moi, je l'ai vécu avec une prof qui donnait cours en parallèle en général. Elle nous disait, mais vous êtes tellement... Enfin, c'est tellement soft qu'on vous apprend, vous arrivez encore à rater, vous êtes vraiment des débiles et tout. Enfin, voilà, des trucs...
Du dénigrement...
Ouais, du coup, ça donne pas envie, en fait. Ouais, ça donne pas envie ni d'étudier, ni de réussir. Je suis obligée, je vais venir. Et puis, en fait, dès que je ne suis plus obligée légalement d'y aller, j'irai plus, en fait. Et voilà.
Moi, j'ai un mot à ajouter. C'est que dans la scolarité, moi, on m'a mis dans, par exemple, immersion latin, immersion néerlandaise, qui veut dire que tu as des cours d'histoire et géographie en néerlandais ou en latin. et ça va te niquer toute ta scolarité, puisqu'on s'en fout du latin. Et du coup, ça m'a poussé à arrêter un petit peu, parce que ça n'a aucun sens, parce que personne n'y parle latin. Voilà,
c'est mon petit mot. Ok. Mais du coup, est-ce que, dans ces difficultés-là, est-ce que vous avez quand même rencontré des personnes quand même qui ont pu vous entendre, qui ont pu vous aider dans cette situation?
Ouais. Pu nous entendre, oui, mais aider, non. Moi, pour ma part.
Moi aussi, pareil, Caillou. Juste des amis à m'entendre, mais pas m'aider.
Qu'est-ce que vous aurez aimé avoir comme aide à ce moment-là, dans ces difficultés-là?
Quelqu'un de motivant, personnellement. Juste quelqu'un qui nous dise que c'est pas mal, en fait, qu'il n'y a pas de mauvais métier, que c'est pas pour autant qu'on va faire un tel métier, qu'on sera dans une case de nouveau, c'est foutu case. Mais ouais, perso, moi, ça aurait été juste ça. Quelqu'un qui vienne et qui me dise, mais t'es en enseignement qualificatif, mais c'est très bien aussi. Tu vas être formé à faire un métier si tu sais déjà ce que tu veux. Enfin, vraiment montrer que les enseignements ont été mis en place parce qu'on n'a pas tous besoin du même mode d'apprentissage et pas pour autant le dénigrer au final, tout simplement. Ouais. Nous encourager.
Trop d'accord.
Oui, ce que je me dis, est-ce que c'est quand même très jeune aussi, finalement, 14-15 ans? C'est très jeune dans une vie pour déjà faire des choix qui vont peut-être se répercuter tellement sur toute notre vie.
À fond. Rien à rajouter pour le coup, c'est totalement vrai.
Moi, c'était... À cette époque-là, je voulais être chez mes parents parce que, faut dire que j'étais plus chez mes parents depuis l'âge de 15 ans. J'ai fait plusieurs internats, plusieurs centres. Et c'est ça qui m'a découragé. J'avais personne, aucun ami, plus de famille. Et je me suis retrouvé seul à affronter tout ça. Et voilà.
Mais c'est pas facile, quoi. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a accroché à ce moment-là?
Je me suis encouragé tout seul. Mon esprit était éteint, j'avais plus rien, j'avais plus confiance en moi. Mais au fond de moi, j'ai senti quelque chose qui se rallumait. Et je me dis, pourquoi pas la rallumer encore plus, avoir plus confiance en moi. Et pas compter sur les autres, compter juste sur moi-même. Parce que les autres, ils parlent, mais ils agissent pas. Et voilà. Je me suis retrouvé solo, et maintenant je suis là, et je me sens un peu mieux.
Le chapeau.
T'es super courageux, franchement. Merci. T'es super courageux, tu peux être fier de toi.
Du coup, selon vous, l'école, ça devrait servir à quoi?
À nous préparer déjà à la vraie vie. On arrête un peu d'arrondir les bords et qu'on arrête un peu de nous enjoliver le truc. Dites-nous la vérité, qu'on s'y prépare, tout simplement. Voilà, pour ma part.
À nous préparer à la majorité, quand on sera majeur.
Responsabiliser, franchement. Ouais, tout simplement.
Au lieu de nous forcer à juste étudier des trucs par cœur pour terminer, pour avoir... Enfin, en fait, c'est trop des étapes à suivre, et si tu les suis pas correctement, ça le fait pas, quoi. Moi, c'est ça qui...
Moi, on m'a toujours dit, dès que tu sors de l'école, tu trouveras un taf, mais c'est vraiment pas ça, en fait. Il y a encore toutes les démarches à faire, t'en sortir dans la vie, les factures, le loyer. On n'a pas tous les moyens. Et ça, c'est pas facile.
Ce serait bête, mais rajouter une clause, une matière en mode cours de maths, savoir gérer un budget. C'est bête, hein. Mais moi, j'ai commencé dans la vie active, je ne savais pas gérer un budget. Je ne savais pas qu'il y avait des factures d'eau qui tombaient au bout d'un an. Je disais, what the fuck? Enfin bref, plein de petits trucs.
Payer des impôts, qu'on doit remplir des fiches d'impôts, des fiches fiscales. Et en fait, je ne sais pas comment ça marche et je ne sais même pas comment je la lis, en fait, tout bêtement. Vers qui je me tourne maintenant pour m'aider?
Je savais même pas c'était quoi des aides du CPS, du chômage.
Ouais, ça aussi.
Ça aussi, on ne le dit pas.
Vraiment, on savait pas, quoi. Et tout ça, ça sert, en fait.
Ouais, donc c'est vraiment l'idée d'avoir peut-être des cours qui sont... Ouais.
Finalement, on a mis à se dire que l'école, ça ouvre pas toutes les portes, quoi. Comme on nous prétend, l'école n'ouvre pas toutes les portes.
Pas du tout.
Ça ouvre rien du tout.
Non, ça n'ouvre rien du tout.
Enfin, elle t'ouvre un chemin, quoi. Le chemin à suivre. Et puis, en fait, après, on te lâche là en te disant, mais si tu fais pas ça, en fait, y a rien, quoi.
Ouais, en fait, il faut... En fait, c'est pas facile parce que... En fait, on trouve toujours un truc à dire que... Ben voilà, t'as un CES. Ben, moi, mon frère, par exemple, il a fait des études, etc. C'est déjà arrivé qu'on lui dise t'es trop formé. Et puis, il y en a d'autres, mais t'es pas assez formé. Toi, t'as trop d'expérience, toi, t'en as pas assez. Tu dis, mais
Comment on est censé faire, en fait? C'est quand que c'est bon? C'est comment qu'on est censé faire la différence? On est beaucoup, en fait, dans ces situations-là. Et voilà, bah, bonne chance. Si t'as de la chance, t'as de la chance. Et voilà, et même comme ça, tu peux te faire arnaquer par des employeurs. On peut t'engager avec des contrats un peu bizarres. Voilà.
Et quand tu dis ça, est-ce que tu penses que c'est juste lié à l'école? Enfin, tu vois, le fait de toi, soit t'es pas assez diplômé, t'es trop diplômé. Est-ce que vous pensez que c'est juste un problème qui appartient à l'école, ou est-ce que c'est quelque chose de plus général?
Ouais, c'est plus général. Je pense que c'est au niveau de la société, hein, je pense.
Moi, en vérité, le CSS, pour moi, ça me dit rien, en fait. J'ai un cousin qui a eu le CSS, il est sorti, il ne savait même pas comment faire un CV, comment postuler, il ne savait rien. Ça sera quoi de donner un diplôme? Et dès que tu sors de là, on s'en fout de toi, tu te débrouilles, tu as ton CSS, c'est bon, tu as donné ce que tu voulais, maintenant débrouille-toi. Mais la personne, elle ne sait pas comment faire un CV, elle ne sait pas comment se présenter. Et ça, c'est le problème des écoles. Il ne t'apprend pas ça, il ne t'apprend rien. Juste les cours, allez, tu as ton CSS, allez, au revoir.
Mais du coup, moi, quand je vous entends, je me pose la question un peu d'obligation scolaire, en fait, jusqu'à 18 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de l'obligation scolaire, du fait d'aller à l'école jusqu'à 18 ans?
Ah, c'est des conneries.
Personnellement, je l'entends. Je l'entends dans le sens où, au-delà des cours, etc., on nous apprend beaucoup dans la discipline, dans la ponctualité, dans le respect des autres, dans tout ça. Donc, je pense qu'il y a aussi du côté positif dans l'école. On ne va pas totalement cracher dans la soupe non plus. Mais je pense que ça apporte ça en plus aussi. Donc, l'obligation scolaire, je ne sais pas jusque quand, mais je pense qu'elle est importante pour savoir vivre en société, en fait. Juste savoir vivre en société.
Moi, personnellement, j'ai plus appris dehors qu'à l'école. Parce que quand j'étais à l'école, j'étais vraiment un gamin, quoi. Je savais pas comment me comporter, à part rester droit, écouter le prof, noter ce qu'il dit. À part ça, je savais pas. Mais une fois que je me suis retrouvé dehors, j'ai compris que c'était quoi la vraie vie. C'était pas qu'écrire, noter. C'est comment se débrouiller, où aller, comment s'en sortir. Et voilà.
Mais du coup, quand tu dis ça, je me demande, est-ce que l'école devrait pas justement permettre de pouvoir se débrouiller, de pouvoir réfléchir? J'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que c'est que des apprentissages très descendants. Enfin, tu vois, on t'oblige à faire certaines choses. Mais est-ce que, selon vous, l'école, parfois, elle ne vous pousse quand même pas à réfléchir, à vous ouvrir sur certaines choses?
Si, moi, personnellement, si, je vais pas cracher dans la soupe. Mais je ne vais pas parler par rapport à mon expérience à moi, mais par rapport à celle de ma sœur qui, elle, a continué dans l'enseignement de transition. Et par la suite, dans son parcours scolaire, je pense qu'elle a été plus amenée à chercher d'elle-même, à se documenter d'elle-même, à se fier à des informations, mais en sachant reconnaître une bonne information, ne pas cliquer sur le premier titre que tu vois et prendre ça pour du pain béni, je vais dire. Il faut chercher, il faut se renseigner, il faut... Voilà. Donc non, je pense qu'ils nous apprennent certaines...
Bah, ça développe, enfin, on t'apprend à développer quand même un esprit critique à partir d'un certain niveau, d'un certain âge plutôt. Donc ouais, c'est intéressant quand même, hein. Ça nous apprend quand même pas mal de choses. Ça nous apprend pas mal de choses quand même, pas exagérer non plus.
Et ça dépend des écoles aussi. Ils sont pas tous pareils.
C'est pas faux.
Je suis totalement d'accord avec ça,
c'est vrai.
Vous trouvez qu'il y a des fortes disparités, des grandes différences dans les écoles?
Ah, clairement.
À fond,
ouais.
Clairement.
Et vous les situez à quel niveau, alors, ces différences?
Pour ma part, j'ai commencé dans une école à Woluwe-Saint-Lambert. Très, très, très chic.
Très réputée.
Les gens, ouais, très réputée. C'était une bonne école. J'ai dû être amenée à être réorientée en qualification. J'ai trouvé une école sur Woluwe-Saint-Lambert qui était déjà Woluwe-Saint-Pierre qui était déjà un peu plus soft que ce que je connaissais, mais qui avait toujours cette rigueur, ce carré qui nous apprenait en fait le respect, la discipline, etc. Et puis je me suis retrouvée dans une école rue Marie-Christine à Boxtel, et j'ai vu que c'était deux salles, deux ambiances, mais parce que les élèves n'étaient pas du même genre, je vais dire ça comme ça, dans le sens où c'était des nationalités différentes. Et c'est comme si ils sont comme ça, donc on ne va pas leur instaurer la rigueur, etc. Moi, je venais d'école où pouvais pas fumer, quoi. Ça n'existait pas. Dans cette école, tu avais un coin fumeur dans la cour. Tes éducateurs venaient fumer avec toi. Tu te dis, mais c'est bizarre quand même comme ambiance. Enfin, moi, c'est pas ce qu'on m'a appris. Enfin, ton éducateur, c'est pas ton pote. Carré, quoi. Non, il vient, tu veux pas rouler un joint. Tu te dis, mais on est où? On est où? Ouais. Et je vous parle de vécu, hein, vraiment. Ben, j'ai fait qu'un an là-bas et je suis vite partie. Là, je suis repartie sur Forêt, dans une école qui avait deux bâtiments, mais qui avait transition et qualification. Et donc, ils avaient cette structure très carrée. Et en fait, revenant de là où j'étais avant, j'ai décroché total. J'ai décroché total parce qu'on m'avait laissé cette liberté de pouvoir sortir quand je veux sur un temps de midi avec ou sans autorisation à escalader un mur. C'était vraiment des trucs de ouf. Et de l'autre côté, on arrive, si t'as pas fait signer ton journal de classe alors que t'es majeur, tu peux pas sortir. Donc ouais, ça a pas de cohérence, ça a pas de sens. Et du coup, tu te dis, mais je vais aller travailler, je vais aller au moins me faire de l'argent, au moins ça. Et voilà. Donc, ouais. J'ai vraiment senti une différence dans...
Vous parliez que vous avez subi des discriminations dans votre scolarité. Et donc les filles me disaient que elles, c'était surtout au niveau de leur option et leur orientation. Mais je vous demandais du coup s'il y avait d'autres discriminations qui existaient à l'école.
Les élèves.
Ouais, entre élèves, vraiment.
Il y a des personnes qui te rejettent comme si t'étais rien, en fait. Et ils te calculent même pas. T'es là, tu parles avec eux, ils s'en foutent. Ils disent t'es qui. Mais je suis un élève comme toi, quoi. T'es dans la même école que moi, dans la même classe que moi. Pourquoi tu me rejettes? On est là pour s'aider. Même si tu veux être seul, dis-le-moi, mais me rejette pas. Dis-le-moi clairement. Mais me nie pas et m'insulte pas.
Totalement d'accord. Personnellement, j'étais dans une école catholique et très réputée, une super bonne école. Et c'est vrai que moi, c'est là-bas que j'ai découvert le racisme, ou tu sais, les propos racisés, mais qui passent cool, tu vois. Et en vrai, ça a été super dur. Personnellement, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas acceptée par les autres, je me sentais pas. J'étais vraiment rejetée au final dans mon école catholique. Voilà quoi.
Et du coup, les profs ou les adultes qui vous entouraient, ils étaient à l'écoute de ça ou ils...
Moi, je trouve qu'ils étaient beaucoup moins patients, personnellement, parce que donc du coup, on a été dans la même école. Et je trouve qu'on est le parfait exemple parce que moi, j'ai exagéré en fait dans ce truc. C'est vous me rejetez pour ça, j'en vais en faire plus en fait. En fait, on trouve tout et n'importe quoi à redire. Ma démarche, je marchais comme un voyou, je marche en fait. Mais ma démarche posait problème parce que je marchais comme une caïra, parce que ça n'avait aucun sens. Sous prétexte que j'ai une voix qui porte, que je parle fort, chez eux ils font crier, machin. Et du coup, une fois que tu parles, on dit non, mais me frappe pas, comme si j'étais. Je sais pas comment ils nous voient. Et donc là, je rejoins totalement Mohamed, je suis un être humain au même titre que toi. C'est juste que, ouais, on a. Voilà, chez nous on fait du bruit facilement. J'ai une culture différente, voilà, mais c'est pas pour autant que je suis quelqu'un de mauvais, que je vais te frapper ou que ça n'a rien à voir. Moi, pendant très longtemps, les gens me parlaient pas, les gens avaient peur de moi. Je suis un sucre, hein, de ouf. Mais ouais, les gens me parlaient pas. Et je me rappelle, en une année, j'ai une fille de ma classe qui me dit, qui commence un peu à me parler. Elle était hyper stressée. Bon, je rigole avec elle, je suis sympa, quoi. Et elle me dit, purée, Dounia, j'aurais jamais cru que t'étais sympa. Moi, j'étais toujours sûre que si je venais te parler, tu m'aurais frappée. Mais je dis, mais une araignée, j'ai peur de la tuer. Une araignée, d'où je vais frapper un être humain, en fait? Et c'est l'image qui en ressortait. Parce que j'avais la peau un peu plus foncée, parce que j'étais un peu plus ronde, et parce que j'avais des expressions que tout le monde ne comprenait pas. Donc, et les profs... Les profs aussi, si tu réponds parce que tu estimes qu'il y a une injustice, parce que moi, on m'a appris très tôt la liberté d'expression, ici, t'es pas chez toi. Vraiment, c'est des propos qui... Et je veux dire, j'ai grandi en Belgique, je parle que français. Enfin, à l'époque, je parlais que français. Je me suis dit, mais je suis chez moi, en fait. Pourquoi avec Mathilde, t'es pas comme ça? Pourquoi avec moi, t'as pas de patience? Si je parle pendant l'interro, je vais avoir moins un point. Enfin, c'est dégueulasse, en fait. C'est juste dégueulasse. Et voilà.
Ouais, c'est encore du boulot, quoi.
Ouais, vraiment.
Mais du coup, la première partie se termine tout doucement, mais du coup, juste pour... qu'est-ce que vous voudriez... Enfin, si vous pouviez changer le système scolaire, qu'est-ce que vous mettrez en place? Qu'est-ce que vous proposiez?
Le respect.
Plus de respect?
au-delà de ça, je dirais franchement de la pédagogie active. Moi, j'aime beaucoup le principe de la pédagogie active, parce que j'ai une de mes sœurs, j'ai bien compris que son apprentissage, c'était pas ça, tout simplement. Et j'ai appris récemment ce qu'était la pédagogie active, et j'adore ce concept. Et de nouveau, bah, j'aimerais qu'on en parle, qu'on ne le dénigre pas, et qu'on en fasse plus, en fait.
Mmh. Ouais. Est-ce que vous avez encore quelques pistes à nous proposer pour améliorer le système scolaire ?
Je pense qu'il faudrait plus être attentif au niveau des profs qu'on embauche, parce qu'il y a des profs qui vont plus te descendre dans ta scolarité plutôt que de t'élever. Et il y en a, c'est des méchants, pour dire les choses gentiment. Ils vont, comment dire... Il y en a qui ne veulent pas te voir réussir. Tu es dans leur classe et tout, mais ils vont te mettre que des mauvais points alors que tu essayes de réussir. Maintenant, eux, ils ne veulent pas te voir réussir. Donc, il faudrait faire... Il faudrait mieux sélectionner les profs dans les écoles, en fait.
Qu'ils soient mieux formés et beaucoup plus respectueux.
Oui, c'est ça. Okay. Que chaque élève il soit sur le même piédestal, en fait.
Le même, ok.
Okay. Bah, le premier, c'est moi, c'est mon premier son studio, où j'étais satisfait, donc je voulais partager avec tout le monde et voir ce que ça donne.
Ok, et tu peux nous dire le titre ?
C'est « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»
Ok, eh ben c'est parti.
Merci. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant ? Tant que mes proches maintenant. Oh là, moi c'est Ray, a.k.a. Infa. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Quoi faire quoi maintenant ? Beaucoup de blabla pour R. Je bouge que pour mon clan. La vie c'est à 5 étoiles. Je te montre même pas mes skills. Ils sont déjà fascinés. Chez moi ça c'est inné. Appelle-moi juste Ray. Celui qui lève ta mamie, ou bien juste El Spectro. Je prends une pote autour du pot, elle me chuchote quelques trucs. Elle aime plus quand je me rue, j'insiste, elle veut que je passe. Je fais craquer, j'ai rétia. Esquive ces gens bizarres, pas tout pour des de l'or. Ils vendront même leur mère, et s'il leur faut leur rêve. Ces gens n'ont rien compris, tout se passe au sixième ciel. Je suis parti de mon côté, mon plan déjà bien rodé. Ils sont juste restés là, ils m'ont dit toi d'abord. Beaucoup de questions, j'ai pas répondu, mais j'avais la réponse. Au bout du compte, j'avais raison, tous ces signes viennent mes songes. Ces négros gars bizarres, au fond je les en veux pas. Aller-retour à Shibuya, je vais au rouge comme Uchiwa. T'écoutes le son, t'y crois même pas, tout ça en indépendant. Le succès top, qu'est-ce que t'entends, battant comme le Mumba. Faut plus son faire couler, ils peuvent même plus m'atteindre. Passer par ci, je passais par là, j'ai vu ce que tu ne veux pas voir. Au final j'assume mes torts, je compte pas l'oublier. Le sabir, ils arrêtent pas, belle calarotte. Faut que leur dire, fais ce que tu veux, tant appartient qu'à toi. J'ai pas le temps, leur expliquer, qui verra bien verra. Je suis sur orbite, je frôle la lune, je passe par la NASA.
Nous sommes de retour pour la deuxième partie d'émission. Et donc voilà, dans la première partie, vous nous avez pas mal parlé de votre parcours scolaire, des obstacles que vous avez trouvés sur votre parcours. Des discriminations que vous avez vécues dans le système scolaire, mais aussi en dehors. Et donc, voilà, moi, je voulais revenir un peu là-dessus et vous demander, est-ce que vous trouvez qu'il existe d'autres possibilités, d'autres alternatives en dehors du système scolaire lorsqu'on est en décrochage ?
Des formations. Des stages. Okay.
Je pense moi, personnellement, je vais un peu me répéter, mais plus nous parler des structures qui proposent des formations. Si on est en décrochage scolaire, ben, je pense qu'on n'a pas encore les moyens forcément de pouvoir y mettre le prix. Et ben, moi, personnellement, il y en a un qui m'a marqué, c'est Cireas. Je connaissais pas du tout. Et je trouve ça très intéressant ce qu'il propose. Et je trouve ça dommage qu'on nous en parle pas assez, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres structures de ce genre. Et on n'est pas forcément au courant. Donc voilà.
Et pour les autres, est-ce qu'il y a d'autres alternatives que vous voyez en dehors du système scolaire, des formations, des stages ?
Non, personnellement, je trouve que les structures style CFA et INFAC, je pense qu'on dit, je trouve que c'est déjà pas mal intéressant, parce que bon, bah, si on n'est pas forcément adepte, je vais dire, du système scolaire classique, bah, on a quand même l'occasion de pouvoir travailler en entreprise, certes de toucher un salaire très minime, mais c'est quand même intéressant d'aller sur le marché de l'emploi et à côté avoir quelques jours de théorie, puisque c'est quand même nécessaire, il ne faut pas se mentir. Donc non, je pense que ce serait plus souligner ce qui existe déjà et après voir au final s'il manque certaines choses. Après, c'est mon avis. Hein.
Et alors, quand on parle de transition, on parlait de la transition de l'école vers l'âge adulte, le monde du travail. Vous parliez que ça avait été particulièrement difficile pour beaucoup d'entre vous ici. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu là-dessus et parler un peu des difficultés concrètes que vous avez rencontrées et peut-être aussi alors des solutions que vous avez pu trouver pour parer à ces difficultés?
Moi, personnellement, j'habitais pas à Bruxelles, mais j'ai étudié à Bruxelles. Donc, quand j'ai arrêté mes études, je ne savais pas du tout ce que j'étais censée faire. J'ai été m'inscrire au Forum sans vraiment savoir ce que j'étais censée faire. On m'a dit que je devais faire une recherche d'emploi. On ne m'a pas dit comment, on ne m'a pas dit quoi faire. On ne m'a pas dit que mes rendez-vous étaient hyper importants au point que si je les rate, j'aurais pas droit. Ben, je ne sais pas tellement à quoi j'avais pas droit parce que quand on finit pas ses études, on a cette période de stage de réinsertion socio-professionnelle, d'insertion socio-professionnelle. Je savais pas non plus de quoi il s'agissait. J'allais chercher un boulot, ben on me disait que c'était un boulot, mais est-ce que ça rentre dans le stage d'insertion socio-professionnelle? Puis après, j'ai appris qu'en fait, ben, ces stages-là, on est payé moins. J'ai rien compris, en fait. J'ai juste rien compris. Et voilà, ça a été très difficile. Et pour ma part, trouver du boulot à mon âge, sans expérience, sans rien, le seul établissement qui m'a pris, c'était un restaurant qui m'a engagé au noir. Et je me suis fait, mais j'ai été payé au final, je crois, 6 euros de l'heure. Et on te le dit, c'est parce que t'as pas d'expérience, parce que si, parce que ça. Et pourtant, je me tuais à la tâche comme jamais. Et voilà, voilà.
Et de quoi tu penses que tu aurais eu besoin alors à ce moment-là?
De nouveau, juste quelqu'un qui puisse m'aiguiller, mais correctement en fait, de me dire le tout. Parce que je me rappelle aussi un beau jour, je reçois, oui, vous n'êtes plus affilié à la mutuelle, je sais pas quoi, rien compris. J'appelle ma mère, oui, apparemment à tel âge, t'es plus souscrit, ou alors c'est parce que t'es plus à la maison. Enfin, j'ai rien compris quoi. Puis on me dit, oui, il faut trouver une adresse absolument, parce que sinon t'auras plus de carte d'identité. Il y avait juste trop, en fait. Et juste m'en rappeler, je me rappelle que je me sentais avec des montagnes à faire. Et j'avais pas envie, j'avais pas la force. Et voilà, je pense que juste, je sais pas, qu'on nous contacte, je sais pas comment on pourrait faire, mais vraiment quelqu'un qui soit là pour nous guider, en fait. Voilà.
Et pour les autres, qu'est-ce que vous avez rencontré, vous, comme difficulté quand vous êtes confronté au monde des adultes, comme on dit, entre guillemets?
La même chose, régler les papiers, tout ça, faire ses papiers, c'est difficile, puisque personne ne t'explique ça.
On n'est pas pris au sérieux aussi quand on est jeune comme ça, je trouve.
Oui.
Voilà,
oui.
C'est une... Je débosse ça là. Mais je trouve qu'on n'est pas forcément pris au sérieux, parce qu'on est jeune, en fait, et qu'on n'a connu que l'école. Et du coup, on nous laisse plus difficilement notre chance. Mais bon, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec le manque d'expérience, le manque de formation, etc. Mais je sais pas. C'est comme si vraiment on était censé se débrouiller tout seul. Va demander à tes parents, genre. Mais ils ont peut-être pas le temps, mes parents sont peut-être pas là. Enfin, prendre ça en compte, en fait, tout simplement.
Mais ce que je me demandais aussi, c'est, je me dis, 18 ans, du coup, administrativement, on doit se débrouiller seul. Mais je me dis, est-ce qu'à 18 ans, est-ce qu'on est déjà... complètement adulte, enfin, est-ce que émotionnellement c'est pas, enfin, je me dis,
pas du tout.
Du jour au lendemain on va pas faire claque et on a c'est soudainement
à fond. Moi je suis d'accord avec vous, c'est trop jeune, c'est du début à la fin, c'est trop jeune. Enfin, je sais pas, c'est à quel âge, à 12-13 ans qu'on nous demande de choisir notre première option à l'école, qu'est-ce que j'en sais? Enfin, il y a quelques jours je sautais encore à la marelle, en fait. De quoi tu me parles, d'étudier, de machin, de trucs, et on te dit que la décision que tu vas prendre aujourd'hui, ça va avoir un impact dans 10 ans. Mais moi je sais pas ce qui m'attend dans 10 ans, en fait, je sais pas. Et donc il y a cette pression au quotidien. Et puis après, on est adolescent, on se cherche, on teste un peu aussi nos limites, les limites de nos parents, de la personne, notre tuteur légal, je veux dire. Donc non, on n'a pas la tête à ça, en fait. On a envie de tout faire, mais sauf d'aller à l'école. Donc c'est pour ça aussi tout à l'heure que je parlais de pédagogie active, parce que ça, je trouve que la pédagogie active, ça nous aide à à se connaître, c'est ça. Et c'est ça qui est important au final, parce que on se connaît pas. Moi perso, c'est aujourd'hui à 24 ans que je commence à me dire, ah ok, je suis telle personne, tel genre de personne. Et aujourd'hui, au final, je pense que j'ai un minimum d'outils nécessaires que pour me dire, ah bon, ça me plaît bien à faire pour le reste de ma vie. Et encore, quoi. Enfin, voilà.
Mais finalement, c'est tout un processus que le passage d'adolescent à adulte. Et effectivement, nous demander de choisir des options à 14-15 ans, ben non, ça n'a pas de sens. On est beaucoup trop immature que pour savoir déjà ce que l'on veut faire pour le restant de sa vie. On va quand même travailler jusqu'à 65 ans. Et donc, voilà. Personnellement, voilà, moi, j'ai 26 ans. Et ouais, en fait, j'apprends tout juste à me découvrir et en fait à savoir ce que je veux faire dans ma vie, quoi. Mais j'ai 26 ans. On m'a demandé de faire un choix il y a 10 ans. Voilà.
Ah, donc finalement, c'est comme si la société nous mettait une pression. Et en fait, si on ne suit pas le rythme, on se retrouve forcément largué sur le côté, quoi.
Exactement, mis de côté, vraiment, ouais. Mis de côté.
Mais ça pose la question, justement, est-ce que vous trouvez que la société laisse une bonne place pour les jeunes? Comment on prend cette place? Est-ce que vous avez un avis là-dessus, sur la place que l'on donne aux jeunes dans notre société?
C'est-à-dire la place, je visualise pas très bien.
Oui, mais la place, c'est-à-dire, mais comment on laisse les jeunes investir en fait leur place en tant que citoyens finalement dans la société par rapport à cette transition de l'âge de la scolarité vers le monde du travail. Et qu'est-ce qu'on met en place finalement pour que les jeunes puissent occuper cette place correctement et puissent définir en fait finalement leur projet d'avenir dans cette société?
J'ai l'impression je dirais les agences d'intérim. Moi personnellement, c'est tout ce qu'on m'a proposé à ce moment-là. Oui, t'as pas de formation, t'as pas de nanani, personne veut te donner de contrat, va dans une agence d'intérim. Ils m'ont jamais contacté. Peut-être une fois pour faire, un inventaire au CIA, 2 heures. Merci, mais j'ai besoin de plus en fait. Et voilà, après, je pense que, nous en tant que jeunes, on doit persévérer en fait, on n'a pas le choix. On doit persévérer, en fait on n'a pas envie d'étudier, on doit montrer qu'on a envie de travailler, limite harceler les employeurs pour qu'ils nous embauchent, mais sans avoir l'air trop bizarre, tout en étant présentable. Oui, on a beaucoup de choses auxquelles faire attention en fait. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas trop droit à l'erreur, et c'est pour ça que je pense qu'on est peu à vite trouver du boulot et qu'on puisse y rester en fait.
Voilà. Parce que là, on parle beaucoup du travail, mais je ne sais pas, Souliman, si ça a été aussi... Tu as eu aussi des périodes comme ça où tu as pu expérimenter juste des choses qui te permettent de te découvrir.
En fait, moi, c'était un peu compliqué. Depuis que je suis petit, en fait, je suis dans une école spécialisée. Enfin, j'étais dans un d'abord normal et après spécialisé. Et c'était compliqué. J'avais des problèmes de comportement... Et j'avais difficile à trouver ma place. C'était l'encadrement était bien, c'était chouette. Il y avait toujours la difficulté de suivre les cours, ou même des fois pas assez. Pour la seconde aussi, c'était un peu compliqué. J'étais toujours en spécialisé, toujours. Et là, j'avais difficile à choisir quel métier pour m'orienter. Et c'est après ça que j'étais en normal et que là, j'ai vraiment dû choisir. Et j'avais pas le choix, en fait. Je devais qu'être en professionnel, en fait. Que professionnel. Du coup, j'étais obligé. Et j'étais en mécanique. Après... il y a même un moment où je suis redescendu d'une classe et tout, problème de dossier et tout, c'était vraiment chaud. Et après j'ai pu continuer comme ça, la mécanique, j'ai réussi 2 années, et après la 5e j'ai décroché parce que j'ai dû changer d'école, parce que l'école où je pratiquais la mécanique allait fermer quelques sections, je pense il y avait professionnel, CFA aussi. Et du coup, j'étais obligé de changer d'école. Après, quand j'ai changé d'école, l'école où j'étais, ça m'a vraiment pas plu. Et après, j'ai décroché. J'essaie de me débrouiller. J'essaie de faire une formation pour trouver un truc que j'aime faire. J'essaie d'avancer. C'est tout.
Et donc maintenant, est-ce que tu vois des perspectives? T'arrives à voir des perspectives d'avenir? T'arrives à voir plus ou moins, à définir plus ou moins un projet?
En vrai, de vrai, c'est... J'arrive quand même à avoir quelques perceptifs, comme vous avez dit. Et après, j'ai encore plusieurs choix et tout. Je ne sais pas vraiment quoi exactement. Mais moi pour l'instant, j'ai en tête seulement de bouger, en fait. De faire des choses et tout. Pour après, que petit à petit, peut-être que je vais trouver un truc, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je veux seulement bouger. Parce que je suis trop resté, on va dire, en stand-by. Maintenant, il faut que je bouge, quoi. C'est ça. C'est ça que je me dis en moi, en fait.
Multiplier les expériences pour voir un peu dans quoi...
Ouais, voilà, c'est plus un peu plus ça. Et toujours de choisir un truc que j'aime, mm-hmm. pour pas perdre de temps, en fait. Après, voilà.
Bah, c'est de tester un maximum de choses, en fait. Pour être sûr que le moment où on est lancé, c'est que c'est vraiment un truc qui nous plaît et qu'on est à l'aise et qu'on le fait bien. Et pour longtemps, c'est ça.
Moi, personnellement, mon projet, le projet que je conseille à tous, c'est d'être heureux. C'est un peu bizarre à dire, mais soyez heureux, les gars.
Mais c'est pas bizarre, ça. C'est censé ouais, enfin, la voilà, réponse.
On s'attend plus à un truc, genre, ouais, je vais faire un truc. Non, soyez heureux. Soyez content de vous réveiller le matin et de faire ce que vous allez faire. Et faites ce que vous voulez faire. Voilà. C'est mon message. Mais tous les jeunes.
C'est important de le rappeler, c'est vrai. On le dit souvent.
Ouais.
Et avoir confiance en soi.
Ouais. Il faut s'aimer.
Et si on doit revenir dans une perspective plus globale par rapport à notre société, comment vous entrevenez l'avenir de la société? Ou est-ce que ça vous fait peur?
Ouais.
Trop.
Je sais pas, moi, je sais pas. Je verrai bien ce que l'avenir nous réserve, je sais pas. C'est assez angoissant de se dire qu'on va rentrer dans le monde du travail, tout ça. Moi, je sais pas trop comment ça se passe. J'ai jamais vraiment travaillé, si ce n'est des petits trucs à gauche, à droite, mais voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, en fait.
Moi personnellement, là, au-delà du Covid et le monde du travail, etc., moi ce qui me fait peur actuellement, c'est la violence qu'on voit. Il y a trop de violence, moi ça me fait grave peur en vrai, genre de voir, pour être vraiment dans l'actualité, c'est ce qui se passe en Palestine. Juste avant, il y avait les Ouïghours. Je pense à tout et à rien en même temps. Le mouvement Black Lives Matter, ça me touche trop, en fait. Ça me touche trop parce que je me dis qu'en fait, on le voit tous et ça continue. Au lieu de faire en sorte que ça s'arrête, que les gens réfléchissent à deux fois, non. En fait, c'est trop gratuit. Il y a trop de violence, les violences policières. Enfin, moi, ça me fait trop peur. Je me demande le monde de demain, à quoi il va ressembler. Et en plus, à côté de tout ça, on rajoute le Covid. C'est trop. Ça donne pas envie. Moi, je suis pas confiante.
Mais tu parles des mouvements Black Lives Matter. J'entends que la société, elle peut être assez flippante et violente. Mais justement, quand tu parles des mouvements Black Lives Matter, c'est aussi des mouvements de jeunes, notamment, qui se mobilisent et qui essayent de faire changer les choses. Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, ce genre de mouvement?
Oui, oui.
Moi, perso, j'aime beaucoup l'idée des manifestations, etc., de montrer notre mécontentement, en fait, et de vouloir faire en sorte que les choses bougent. Malheureusement, je vais prendre comme exemple le mouvement Black Lives Matter qui s'est passé l'année passée. Ce qui est vraiment dommage, c'est que sur toute cette population, sur toute cette manifestation, il y a une infime partie qui a voulu jouer de nouveau cette violence, en fait, contre laquelle on est. Et en fait, ça a fait perdre toute crédibilité à la manifestation. Et en fait, c'est à chaque fois la même chose. À chaque fois, c'est cette violence qui revient et qui fait qu'on n'est pas crédible, en fait. Et donc, ça me parle, mais j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas.
Sur ce que Dounia disait, c'est effectivement, il y a une petite partie de ces jeunes qui vont utiliser la violence pour se faire entendre. Or, c'est contre-productif à mort. Mais moi, ce que je vois surtout, en tout cas, c'est vraiment de voir qu'aujourd'hui, les jeunes ne se laissent plus faire. Donc, on a affaire à vraiment une jeunesse qui est en train de s'engager petit à petit et du coup, qui devrait changer la société dans laquelle on est. De voir ces jeunes finalement se battre pour toutes ces inégalités, pour toutes ces oppressions, dirais-je. En vrai, moi, je trouve ça plutôt rassurant, en fait. Moi, je trouve ça rassurant de voir que les jeunes d'aujourd'hui se battent, en fait, contre ce qui ne va pas. Donc, moi, en vrai, j'ai super confiance. Je me dis qu'on va peut-être changer les choses, finalement. Ouais. On va peut-être avancer positivement. Voilà.
Moi, je pense pas que ça va beaucoup changer, parce que déjà, par exemple, dans le rap français, ça fait 30-40 ans que le rap français il existe. Au départ, c'était avec des messages contre la société, contre des trucs qui vont pas. Et il n'y a rien qui a changé. Il y a encore les racismes, il y a encore tout ça. Donc, je sais pas si ça va changer quelque chose.
Moi, je pense qu'on va être gagnant, et je vais dire gagnant parce que pour moi, on aura gagné quelque chose. C'est qu'en fait, on est la génération, enfin, les adultes de demain. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est triste à dire, mais on va devoir mordre sur nos tchiks, mais que demain, c'est nous qui avons le pouvoir de changer les sociétés. C'est nous les policiers de demain, c'est nous les professeurs, comme il disait tout à l'heure, de demain. Et je pense qu'il va falloir juste un petit peu mordre sur nos tchiks, c'est triste à dire, faire des manifestations, faire part de notre mécontentement, mais que d'ici quelques années, c'est nous qui aurons le pouvoir, en fait. Et c'est là qu'on aura gagné. C'est là que toutes ces discriminations n'auront plus lieu, parce que nous-mêmes, on a subi de la discrimination. Et pourquoi on va faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, ou ce qu'on nous a fait? Donc voilà, à tous les opprimés, on va gagner.
Alors du coup, est-ce que vous sentez que vous avez un rôle à jouer dans l'évolution de la société et les changements potentiels à venir?
Oui, du coup. Oui,
ouais. Quand je vous entends.
Oui, oui.
Et est-ce que vous auriez un modèle de société idéale, finalement? Si vous pouviez changer quelque chose à la société actuelle, comment elle évolue, qu'est-ce que vous feriez? Quel serait votre modèle de société idéale?
Dans le monde parfait, quoi.
Dans un monde un peu utopique?
Ouais, le respect, l'amour pour tous. Pour tous, pour tous. Et quand je dis respect, c'est dans sa globalité, c'est l'acceptation des autres. Mais récemment, je parlais de l'époque de la colonisation. Et je trouve ça vraiment horrible et irrespectueux de se dire qu'on va aller dans des terres qui ne sont pas les nôtres, piller et laisser les gens qui y vivent juste comme ça, en fait. On va juste prendre qui n'est pas à toi. Et donc ça va jusque là, en fait, quand je dis respect. C'est, ouais, je sais pas, l'amour, on se respecte, on sait. Mais cette terre, au final, on la partage tous, donc on la partage bien. Voilà, l'aimer, en prendre soin.
Et pour les autres, Souleymane, est-ce que toi tu auras un modèle de société idéale?
Mais moi, je dirais qu'on devrait tous s'accepter tous comme on est, peu importe les différences. Et moi, je trouve que c'est comme ça qu'on peut mieux faire avancer le monde.
Là, actuellement, c'est quoi les injustices qui vous énervent le plus, quoi? Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans la société pour l'instant?
Les bavures policières. Pardon, mais ça, je dis, ah, ça me saoule trop.
Je vois que vous, dans le public, tout le monde acquiesce.
Ouais. Je sais pas si quelqu'un veut.
Oui, si vous voulez un peu vous exprimer là-dessus.
C'est la bavure policière, ouais. Ça nous met en rogne, ça.
Amine, pardon.
La bavure policière, je trouve que c'est inadmissible. Parce que c'est inadmissible. Parce que moi-même, j'ai déjà été victime de bavure policière. Parce que j'étais menotté. Et il m'a pris ma tête, il l'a mis dans le mur, il m'a pété mon arcade. Maintenant, j'ai une cicatrice sur le crâne, c'est pour ça que je mets toujours un chapeau. Et tout, c'est inadmissible. C'est inadmissible, hein, voilà, qu'est-ce que je dis. Parce qu'ils te frappent quand t'es menotté, t'es là, ils sont au commissariat, en ville. C'est des méchants en ville, au commissariat, en ville, à l'Amigo. Parce qu'ils te menottent et... Et c'est tous des racistes, ils parlent en irlandais entre eux, toi tu comprends pas, il va venir, il va prendre ta tête, il va te mettre dans le mur, moi il m'a pété mon arcade, alors que je suis menotté, et déjà à la base moi j'ai rien à voir dans l'histoire, c'est mes amis qui l'ont fait, et moi je me fais violenter par des policiers pour rien, et j'ai trouvé ça inadmissible, j'étais choqué et outré.
Tout à l'heure on a parlé de violence, et le fait que des policiers qui sont censés être des gens qui protègent et qui frappe des jeunes et qui s'étonnent que les jeunes après sont violents, je trouve que c'est un peu fou, vous voyez. C'est que le fait qu'ils ont violenté par exemple Amine, et que si un jour ils voient un policier qui est en position de faiblesse et qu'il se souvient de ce qu'on l'a fait et qu'il veut aussi se venger, ça crée une violence qui ça tourne en cercle en vrai. Et que ces policiers justement ils sont bizarres et que, enfin c'est bizarre de fou.
Oui, mais tout à l'heure vous disiez que parfois dans les manifestants il y avait de la violence, mais est-ce que vous mettez ça au même niveau que quelqu'un qui travaille pour l'État,
absolument
soit violent
Non, désolé, non. Ces gens, ils sont là pour nous,
pour nous aider, pour notre sécurité à tous. Alors, il n'y a pas, ok, peut-être que le gars, il a fait une soupe, peut-être qu'il est avec des gens qui... Pourquoi tu vas le frapper gratuitement? Sous prétexte de quoi, en fait? T'es qui, toi? Tu vois, enfin, désolé, mais... Enfin, c'est... Non, je suis désolée. C'est comme si un médecin, maintenant, il vient, il va mal te soigner ou il va pas te soigner. Dans quel monde tu vis? C'est ton travail. Tu travailles pour ma santé. Quelque part, je te paye. Donc, non, en fait. Non, c'est hors de question. À quelle heure?
Il y a même eu des vidéos où carrément des policiers qui se mettent à frapper des pompiers. Carrément des pompiers. Et comment tu fais te sentir? Genre de base, on se sent protégé, on se dit on est dehors, il n'y a personne qui peut nous toucher parce que les policiers, c'est leur job de censé nous protéger et tout ça. Mais comment tu veux te sentir protégé en confiance quand eux-mêmes, les policiers, se mettent à venir te frapper toi? Parce que tu es de telle origine ou parce que tu es habillé comme ça ou comme ça. Ils vont venir chez toi, sûrement t'agresser ou mal te parler directement, tandis que si c'est une autre personne, ils vont soit la respecter ou soit lui demander gentiment quelque chose. Mais comment tu te sens en confiance et en liberté quand des policiers carrément viennent te frapper, te cassent le nez, comme Amine l'a dit, te cassent l'arcade, te fait saigner, te poussent ta moto, te cassent ta voiture, te cassent ton rétroviseur? C'est comment tu te sens en confiance? C'est triste. C'est juste ce qui s'est passé là sur, comme Denis a dit, Black Lives Matter. Juste cette personne-là. Regardez tout ce que ça a engendré. Juste avec une seule personne. Bon, c'est. Ce que j'avais à dire là-dessus, c'est triste. C'est triste trop. Et on ne sent plus en sécurité du tout, en fait, même avec les policiers.
Une perte de confiance. À fond, ouais.
Enfin, par rapport à ça, qu'est-ce que vous penserez qui pourrait être fait pour justement... Enfin, maintenant, on parle quand même plus de racisme structurel. On parle aussi du profilage ethnique que la police applique. J'ai vu qu'il y avait certains parlementaires qui voulaient interdire ces méthodes-là. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour arrêter ce processus-là?
Ben, créer une organisation qui contrôle la police, mais qui n'a rien à voir avec la police.
À ouais. fond.
Parce que s'il crée une organisation qui est dans la police, c'est toujours leurs mêmes collègues qui les protègent par après. Mm-hmm. Donc ça n'a rien en vrai. Mais créer genre même des citoyens qui contrôlent la police, qui n'ont rien à voir avec la police, comme ça, s'il y a une bavure, ça veut dire okay, on va vraiment le punir, sanctionner, prison ou quelque chose, et ainsi de suite. Voilà.
Ouais, des personnes neutres. Moi, je suis d'accord.
Je trouve ça choquant que quand tu vas au commissariat pour porter plainte contre la police, le policier il va dire on ne porte pas plainte contre les collègues, monsieur. Et ça, c'est dégueulasse parce qu'ils font aussi des bavures. Voilà, il n'y a pas que. C'est des représentants des forces de l'ordre en plus. Donc, c'est ça, c'est d'autant plus grave.
Ouais. Ben, moi, je pense qu'il y a aussi un truc. Après, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Moi, je ne me suis jamais posé la question. Mais je pense qu'il faudrait mettre un test psychologique ou psychiatrique ou je ne sais pas. Mais un peu cerner aussi le genre de personnage. Parce que des fois, quand on entend les propos de certains policiers, c'est d'entrée de jeu, tu es raciste à mort, en fait. Et je me dis, ben, si moi, je le vois, qui ne suis pas une professionnelle, s'il avait juste vu une personne professionnelle, on lui aurait pas donné une matraque avec une insigne, avec un flingue. Non, frérot, tu es un danger pour la société, pour toute personne qui serait différente de toi, en fait. On est très proche du discours d'Hitler, au final, tu vois. Donc, non, en fait, à un moment, il faut prendre le mal à la racine. Faites quelque chose, quoi. Voilà, comme c'est il dit, bah ouais, en fait, on porte pas plainte contre les collègues. Oui, mais on va lui trouver une excuse. Oui, mais avant ça, il s'est déjà fait agresser. Donc, non. T'es pas content. Hop, il y a d'autres boulots dans la vie. Stop.
Je pense qu'il faudrait instaurer des caméras de vidéosurveillance dans les voitures des policiers, parce que moi, j'ai eu une expérience, je devais passer au palais et j'étais dans la voiture à l'arrière menottée et on passe vers Gare du Midi. Et là, le policier, il a dit, je lancerais bien une grenade sur tous ces bougnoules. Et moi, j'étais à l'arrière de la voiture et j'étais choqué d'entendre ça. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire quand je vais arriver au palais? Moi, j'étais choqué. Et voilà. J'ai eu peur.
C'est très violent. C'est très, très violent.
Ouais, comme ça. Il parlait à son collègue, comme ça, normal. Il faudrait mettre des caméras pour contrôler un petit peu ce qu'ils se disent. Et voilà.
Non, finalement, ce que tu entends, c'est qu'il y a un gros manque de transparence, en fait. Est-ce que vous auriez envie de rajouter encore quelque chose pour clôturer l'émission? On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous auriez envie de dire un petit mot de fin?
Non, moi, je dirais juste pour tous les jeunes qui nous écoutent, faites-vous confiance, laissez-vous le temps. Les erreurs, c'est OK. Je pense qu'on ne nous l'a pas assez dit. Faire des expériences qui ne marchent pas, c'est OK, c'est pas grave. En fait, il n'y a pas d'âge pour être quelqu'un. Tout simplement, respectez-vous, aimez-vous. Aimez les autres aussi, respectez les autres. Et en fait, on n'en sortira que plus fort. Parce que nous sommes la prochaine génération. Et c'est à nous de faire bouger les choses.
Voilà.
Un bon bataillon.
Merci.
Merci.
Ben, merci beaucoup. C'était très intéressant de vous entendre. Et voilà, on était très contentes de partager ce moment avec vous.
Oui. Merci à vous, vous êtes géniales.
Merci.
Cœur paillette.
Samarconde.